Bonjour à vous, merci de nous rejoindre sur VOA Afrique émettant de Washington. Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui en ce vendredi 1er mars 2024 à la une de l'actualité ce matin. Au Tchad, Yaya Diallo, le détracteur le plus virulent de la junte, tué dans un assaut, l'opposition parle d'un assassinat. Au Cameroun, l'agresseur sexuel présumé Hervé Bobda placé en détention provisoire d'après son avocat. Le Mozambique ratifie un traité d'extradition avec le Rwanda. En Haïti, des policiers tués dans des échanges de tirs avec les gangs au moment où le chef de l'ONU appelle à une solution politique. Yaya Diallo, principal rival du général Mahamat Idriss Déby Itno, chef de la junte au Tchad, a été tué dans l'assaut par l'armée du siège de son parti mercredi. L'opposition crie à l'assassinat pour l'évincer de la présidentielle prévue dans 2 mois. Chimel Gandounou.
Il est mort, assassiné par la garde républicaine, le corps d'élite du président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a déclaré Evariste Gabnon, porte-parole du Parti socialiste sans frontières de M. Diallo. Ça ne peut être qu'un assassinat programmé, a renchéri Rakis Amat, chef du Parti pour le renouveau démocratique du Tchad. Il s'agit d'un crime odieux et inadmissible, a commenté Mas Logar, coordonnateur de Mwakitama, la principale plateforme de l'opposition et de la société civile. Selon le gouvernement, M. Diallo, le plus farouche opposant au général Mahamat Idriss Déby Itno, dont il est le cousin, a été tué mercredi pendant l'assaut du siège de son parti par l'armée qui voulait l'arrêter. Les autorités l'accusaient d'avoir été l'initiateur d'une tentative d'assassinat du président de la Cour suprême et d'une attaque du siège de tout puissant service de renseignement. Monsieur Diallo avait nié ces accusations quelques heures avant sa mort, accusant la junte d'une mise en scène pour l'écarter de la présidentielle prévue le 6 mai.
Nous y reviendrons tout à l'heure dans la partie magazine avec Succès Masra, le chef du gouvernement tchadien qui a accordé une interview exclusive à VOA Afrique. C'est à écouter également sur voafrique.com et sur nos réseaux sociaux. En République démocratique du Congo, après plus de 8 mois d'enquête, le parquet indique que l'opposant Chérubin Okende s'est suicidé. Son parti et sa famille fustigent un déni de justice. Eddy Sango.
C'est l'autopsie et l'enquête qui ont permis d'en arriver à la conclusion d'un suicide, a déclaré le procureur Edmond Issofa. Selon lui, M. Okende est mort de la suite de l'hémorragie résultant de la blessure causée par l'arme qu'il a lui-même utilisée. Son garde du corps, qui est en prison, avait déclaré avoir laissé l'arme dans le véhicule du défunt pour aller déposer un document sur demande de M. Okende lui-même à la Cour constitutionnelle. Le corps de M. Okende a été découvert dans les véhicules immobilisés sur un boulevard à Kinshasa. Un autre procureur a ajouté que, dans un agenda trouvé lors de la perquisition du bureau au privé du défunt, Chérubin Okende avait écrit 3 jours avant sa mort « Je suis au bout du rouleau », élément qui, selon lui, étaye la thèse du suicide. Les porte-parole de son parti, Ensemble pour la République de l'opposant Moïse Katumbi, s'est indigné d'un déni de justice et a demandé au procureur de rendre public les rapports d'autopsie. Sa famille déclare en avoir marre d'attendre les résultats de l'autopsie et a décidé de l'enterrer. Mais le corps de Chérubin Okende n'a jamais été rendu à sa famille pour procéder à son inhumation. Les procureurs ont annoncé que l'enquête va se consacrer désormais sur les raisons de son suicide et non plus sur l'auteur du meurtre.
Hervé Bobda, l'homme d'affaires camerounais, soupçonné de multiples agressions sexuelles et viols, a été placé en détention provisoire dans une prison de Douala pour que le juge d'instruction mène davantage d'investigations. D'après son avocat, maître Roland Ojong Achou, son client est en garde à vue depuis 1 mois. Selon l'avocat, 12 personnes ont porté plainte. Depuis mi-janvier, plus de 70 témoignages anonymes comportant des accusations d'agressions sexuelles ont été relayés sur les réseaux sociaux par un blogueur camerounais. Le Parlement mozambicain a ratifié hier un traité d'extradition avec le Rwanda. L'accord a été paraphé à Kigali en 2021 et approuvé par le gouvernement de Maputo en mars 2023. Yacouba Ouédraogo.
Cet accord permettra aux justices du Mozambique et du Rwanda d'échanger des informations sur les citoyens, a déclaré Elena Kida, ministre de la Justice. Les réfugiés rwandais et les demandeurs d'asile au Mozambique ont, par le passé, exprimé la crainte que ce traité ne soit utilisé pour faire la chasse aux opposants du gouvernement de Kigali. Un ancien lieutenant de l'armée rwandaise a été tué dans la banlieue de Maputo en 2021 et en 2012, le corps de l'ancien directeur de la Banque de développement du Rwanda a été retrouvé flottant dans la mer au large de la capitale. En 2021, plus de 2000 soldats rwandais sont arrivés au Mozambique pour aider les forces mozambicaines à lutter contre une insurrection islamiste dans la province de Cabo Delgado. Des milliers de réfugiés rwandais vivent au Mozambique, selon les chiffres des Nations Unies. La plupart se sont installés dans ce pays après le génocide de 1994, qui a fait au moins 800 000 morts.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump, rivaux probables à la présidentielle de novembre, ont effectué deux visites concurrentes hier à la frontière des États-Unis avec le Mexique pour évoquer l'immigration. Zididico.
Joe Biden est responsable de cette invasion, a déclaré Donald Trump, accompagné du gouverneur texan Greg Abbott, dans la ville d'Eagle Pass. Le candidat à l'investiture républicaine a peint un tableau sombre d'Américains kidnappés, violés, assassinés par des migrants, comparant la situation actuelle à une guerre. L'ex-président ne cesse d'accuser son successeur d'avoir transformé la frontière sud des États-Unis en passoire. Il est grand temps d'agir, a pour sa part plaidé Joe Biden, avant de tendre la main à son adversaire au sujet d'une loi sur l'immigration qui a été rejetée par les élus républicains à la demande de Donald Trump. « Voici ce que je dirais à Trump », a dit le président démocrate à Brownsville, où il a rencontré des agents de la police aux frontières. « Plutôt que de dire aux parlementaires de bloquer cette loi, joignez-vous à moi pour dire au Congrès d'adopter ce projet de loi soutenu par les deux parties. Nous pouvons le faire ensemble », a conclu le président Biden.
L'Organisation mondiale du commerce a prolongé jusqu'à ce vendredi sa conférence ministérielle à Abu Dhabi. Le but est de permettre à ses 164 membres d'intensifier les négociations dans l'espoir de résultats sur la pêche et l'agriculture. Nanit Talani.
Quatre grands sujets sont sur la table des discussions. La pêche, l'agriculture, le commerce électronique et la réforme de l'OMC. Les négociations sur la lutte contre les subventions favorisant la surpêche et la surcapacité. Les navires coincent sur la pêche artisanale et la pêche en eau lointaine. Pour l'instant, il n'y a aucune perspective claire. L'Inde a demandé un moratoire sur les règles pour les pays en développement et un moratoire sur les subventions accordées par les pays pratiquant la pêche lointaine pendant une période d'au moins 25 ans. Dans le dossier agricole, la question la plus difficile reste celle des stocks de denrées alimentaires destinés à garantir la sécurité alimentaire des populations. Depuis 2013, certains pays en développement bénéficient d'un traitement de faveur pour divers produits de base, dont le riz et les céréales, mais l'Inde, au nom des dizaines d'autres pays en développement, réclame une solution permanente, élargissant l'accord à l'ensemble des pays concernés et à d'autres produits. L'Afrique et l'Inde ont par ailleurs refusé que l'accord visant à faciliter les investissements internationaux fasse partie du menu des discussions. Les signataires, dont font partie la Chine, l'Union européenne et les États-Unis, avaient demandé que cet accord soit intégré aux règles de l'OMC.
En Haïti, quatre policiers ont été tués dans des échanges de tirs hier avec des gangs dans la capitale Port-au-Prince. D'après le syndicat, l'un des plus importants groupes armés impliqués a parlé d'attaques coordonnées pour renverser le premier ministre contesté Ariel Henry qui se trouve au Kenya. Ce pays africain doit diriger une mission multinationale approuvée par l'ONU pour aider la police à lutter contre les gangs. L'ONU indique que cinq pays, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Bénin et Tchad, ont confirmé leur participation participation. Mais pour le secrétaire général des Nations Unies, il faut parvenir à une solution politique en Haïti. Sans solution politique, le problème ne sera jamais résolu, a déclaré hier Antonio Guterres. Au pouvoir depuis 2021, Ariel Henry aurait dû quitter ses fonctions début février. Quelques 59 000 bureaux de vote ont ouvert ce matin en Iran pour les législatives, dont le principal enjeu est le taux de participation, car les conservateurs au pouvoir sont assurés de conserver une large majorité. Les résultats globaux sont attendus dimanche ou lundi. Les États-Unis ont balayé la fiabilité du scrutin. Je ne m'attends pas à ce que les élections en Iran soient libres et équitables, a déclaré hier Matthew Miller, le porte-parole du département d'État. Des milliers de candidats ont déjà été disqualifiés d'après un processus opaque et le monde sait depuis longtemps que le système politique iranien se caractérise par des systèmes administratifs, judiciaires et électoraux non démocratiques et non transparents, a-t-il ajouté. Voilà pour le journal, sans plus tarder la Minute Écho avec Eric Manirakiza.
Ali Hassan Mwinyi, président de la libéralisation économique de la Tanzanie, est décédé jeudi à l'âge de 98 ans. C'est lui qui a mis la Tanzanie sur le chemin des réformes, rompant avec la politique économique socialiste du père de l'indépendance, Julius Nyerere. Il a ouvert notamment le pays aux importations et a levé les restrictions sur la création d'entreprises privées. Sa libéralisation de l'économie s'est aussi accompagnée de nombreux scandales de corruption qui ont amené plusieurs bailleurs internationaux à suspendre leurs aides en 1994. L'île Maurice a inauguré jeudi une piste d'atterrissage et une jetée financée à hauteur de 175 millions d'euros par l'Inde sur l'île d'Agalega. Le premier ministre mauricien a affirmé que ces deux infrastructures serviront essentiellement à moderniser et à renforcer la sécurité maritime de son pays. Les nouvelles installations fourniront une plateforme logistique pour une surveillance et un contrôle plus efficace de notre vaste zone économique exclusive de 2,3 millions de kilomètres carrés et renforcer les actions de lutte contre les stupéfiants, le trafic d'êtres humains et la pêche illégale, a-t-il détaillé.
Et maintenant, la page sportive avec Yacouba Ouidraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Vladimir Petkovic, nommé sélectionneur de l'Algérie.
Oui, l'entraîneur suisse succède ainsi à Jamel Belmadi. Remercié en janvier, le nouveau sélectionneur arrivera à Alger ce dimanche et animera une conférence de presse lundi, indique la Fédération algérienne de football dans un communiqué. Vladimir Petkovic était libre depuis son limogeage par les Girondins de Bordeaux en février 2022. L'Algérie s'est séparée de son ancien sélectionneur Jamel Belmadi le 24 février au lendemain d'une défaite contre la modeste Mauritanie qui a entraîné l'élimination de l'Algérie dans le premier tour de la CAN en Côte d'Ivoire pour la deuxième édition d'affilée. En 5 ans et demi à la tête de la sélection, Belmadi a dirigé 64 matchs pour 41 victoires, 17 nuls et 6 défaites. Après 2 matchs amicaux prévus contre la Bolivie et l'Afrique du Sud en mars, l'Algérie va affronter la Guinée et l'Ouganda en juin dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026.
Paul Pogba saisit le TAS et affirme n'avoir jamais pris délibérément des produits dopants.
Le milieu français, suspendu 4 ans pour dopage, dit saisir en appel le tribunal arbitral du sport. Il soutient n'avoir jamais pris sciemment ou délibérément des produits dopants. Paul Pogba, 30 ans, a été contrôlé positif à la testostérone en août 2023 et était suspendu provisoirement depuis septembre dernier. J'ai été informé aujourd'hui de la décision du tribunal national antidopage et j'estime que le verdict est incorrect, a écrit l'international français sur son compte Instagram. Je suis triste, choqué et navré que tout ce que j'ai construit au cours de ma carrière de joueur professionnel m'ait été retiré, a réagi Pogba. Pour expliquer ce contrôle antidopage positif, l'entourage de la pioche a fait savoir que les métabolites de testostérone proviendraient d'un complément alimentaire prescrit par un médecin que le joueur a consulté aux États-Unis.
Ici en NBA, Joel Embiid dit vouloir revenir cette saison mais n'a pas de calendrier.
Le pivot star des Philadelphia Sixers, blessé, aimerait revenir sur les parquets cette saison,
mais ne veut pas se mettre de pression, a-t-il expliqué. Joël Mbillit, 29 ans, a été opéré le 6 février d'une lésion du ménisque latéral du genou gauche et doit être réexaminé la semaine prochaine selon la communication de sa franchise au début du mois. Depuis sa blessure le 30 janvier contre Golden State, les Sixers ont gagné 4 matchs en 12 rencontres disputées. Ils pointent à la 6e place à l'Est. La saison régulière de NBA se termine mi-avril, puis les playoffs mèneront à la finale en juin. Avant sa blessure, Embiid culminait au sommet du classement des meilleurs marqueurs NBA avec 35,3 points de moyenne. Il a atteint les 70 points lors d'un match record pour sa franchise le 22 janvier contre San Antonio.
Merci bien, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en ce vendredi 1er mars 2024. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Nous vous le disions un peu plus tôt, il était le principal rival du général Mahamat Idriss Déby Itno, chef de la junte au Tchad. Yaya Diallo a été tué dans l'assaut par l'armée du quartier général de son parti à N'Djamena avant-hier. L'opposition condamne un assassinat pour l'évincer de la présidentielle prévue dans 2 mois. Succès Masra, ancien opposant récemment nommé Premier ministre, se dit attristé par les derniers événements dans son pays qui, ajoute-t-il, a vécu trop de violence. En visite aux États-Unis, le chef du gouvernement tchadien a accordé hier un entretien exclusif à Alexandrine Rollognon, ici au siège de la Voix de l'Amérique à Washington. Nous écoutons Succès Masra.
Mes condoléances non pas seulement à sa famille, mais mes condoléances aux familles de toutes les victimes, de tous les côtés. Dans cette affaire, il y a des militaires qui sont morts, il y a des civils qui sont morts. Je ne sais pas distinguer entre le sang d'un militaire tchadien ou d'un civil tchadien. Et donc, condoléances à tout cela, parce que leur sang, c'est le sang des Tchadiens qui coule encore. Notre pays a vécu trop de violence. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons choisi, nous, de nous engager sur un chemin de réconciliation.
Yaya Diallo était accusé d'avoir mené dans la nuit de mardi à mercredi une attaque contre les locaux des services de renseignement. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les circonstances de cet événement, de cette mort ?
L'enquête est toujours en cours. Le procureur a annoncé les gens qui ont perdu leur vie, c'est plusieurs personnes, et il y a une enquête qui a été ouverte. Et donc, les conclusions de cette enquête nous permettront de savoir ce qui s'est passé, qui s'est déroulé sur un certain nombre de jours où des institutions étaient en jeu, mais au-delà des institutions, des vies humaines, finalement, ont été emportées. Et donc, ceci est très grave. Même si c'était une seule vie humaine qui était emportée, c'était grave. Il y a plusieurs vies humaines qui sont emportées, c'est très grave. Que des institutions soient visées et que les dirigeants de cette institution soient visés et que des dirigeants des partis politiques soient visés ou impliqués, tout ça nous amène à l'urgence de sceller ce qui est fragile, de renforcer ce qui est fragile afin de nous permettre d'atterrir à l'aéroport de la démocratie, c'est-à-dire le choix des Tchadiens et de leurs dirigeants qui vont répondre à leurs besoins, parce que les problèmes des Tchadiens de tous les jours, c'est ça l'essentiel auquel nous devons répondre collectivement.
On a vu Yaya Diallo à vos côtés du temps où vous étiez opposant. Sur le plan personnel, comment vivez-vous la nouvelle de son décès ?
Je suis chef du gouvernement du Tchad. La mort de n'importe quel des Tchadiens est un sujet de tristesse pour moi, forcément. À l'échelle d'un pays, il n'y a pas d'ennemis. Il ne peut y avoir que peut-être ponctuellement des adversaires. Mais on doit pouvoir construire le Tchad de demain avec tous les Tchadiens. Évidemment, pour n'importe qui, les forces de sécurité qui sont tombées, pour moi, c'est forcément un sujet de tristesse. Peu importe la couleur, et pendant ce genre de moments, je ne regarde pas les Tchadiens en fonction de leur casquette politique. Et nous travaillons à bâtir justement ce Tchad où la liberté d'opinion, d'expression, d'assemblée, même de pouvoir se dire on n'est pas d'accord, est une chose aussi. Mais nous devons aussi travailler à être républicains, à respecter les uns les autres, à respecter les institutions, les instances, les personnalités. C'est aussi comme ça que nous allons bâtir un Tchad qui sera un Tchad solide. Donc oui, aujourd'hui, en tant que chef du gouvernement du Tchad, j'ai de la tristesse parce que des compatriotes sont décédés. Indépendamment de qui a raison ou qui a tort, qu'une vie humaine soit perdue est en soi un sujet de tristesse pour moi.
Parlons de la prochaine présidentielle au Tchad, dont le calendrier électoral a été publié il y a quelques jours. Le premier tour de la présidentielle aura lieu le 6 mai. Est-ce que vous serez candidat ?
La question de ma personne n'est pas importante dans cette affaire. C'est un choix qui doit être personnel pour tout le monde. Ce qui est important, c'est que nous avons mis en place des institutions totalement indépendantes qui ont décidé d'un agenda. Et donc, nous, en tant que gouvernement, mon rôle, c'est de veiller à ce qu'il y ait une élection ouverte et les lois qui ont été introduites permettent même les candidatures indépendantes. L'Agence nationale de gestion des élections, l'ANGE, comme on l'appelle, est totalement indépendante. Et tout ça, c'est pour donner des gages d'un minimum d'indépendance pour garantir les conditions d'une élection.
Mais vous avez deux mois jusqu'au scrutin, il y a deux mois, c'est le 6 mai, le premier tour. Quelle est votre marge de manœuvre en si peu de temps pour mettre en place des programmes efficaces et efficients ?
Les institutions sont déjà en place, c'est cette institution-là qui a décidé du calendrier électoral. Une fois que le calendrier électoral est là, que les Tchadiens pourraient candidater librement, une fois que les Tchadiens choisiront leurs dirigeants, ben, ils seront ceux qui seront comptables devant le peuple. Et donc, j'espère que les Tchadiens ont là l'occasion d'organiser la toute première alternance démocratique de l'histoire de notre pays. Ils ont aussi là l'occasion de choisir des dirigeants serviteurs qui vont répondre à leurs problèmes. Et donc, mon rôle en tant que chef de gouvernement, c'est de m'assurer que les élections se tiennent cette année et que cela nous permette donc de finir une transition, parce qu'une transition qui ne prend pas fin n'est plus une transition et ça peut occasionner d'autres problèmes plus graves. Je suis aujourd'hui plus préoccupé par le sort du collectif que par mon propre cas, et le choix d'être candidat ou pas, c'est un choix personnel et le moment viendra où nous en parlerons.
Succès Masra, le Premier ministre du Tchad, de passage hier dans les locaux de VOA Afrique, ici dans la capitale américaine.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Sénégal, le chef de l'État maintient qu'il partira à la fin de son mandat le 2 avril, alors que les conclusions d'un dialogue national, tenu en début de semaine, ont recommandé qu'il demeure à la tête du pays jusqu'à l'installation de son successeur. Mais Macky Sall a indiqué, d'après le journal sénégalais Le Quotidien, qu'il comptait saisir le Conseil constitutionnel pour désigner un président intérimaire après son départ. Pour en savoir davantage, Abdourahman Dia a joint à Dakar le patron du journal Le Quotidien, Madiambal Diagne.
Oui, le quotidien a donné cette information ce matin, que le journal a donné de nos sources. Et le président Macky Sall lui-même a pu confirmer cela pendant un tweet, comme vous le dites, dire effectivement que le 2 avril 2024, à la fin de son mandat, il va prendre ses fonctions et qu'il invitera le Conseil constitutionnel à installer un président de la République intérimaire.
Alors ce sera une situation assez inédite, hein, et le président en exercice qui confirme son départ, mais on risque de ne pas avoir de passation de service avec un président élu. Comment est-ce que vous l'interprétez?
Bon, c'est effectivement une situation assez inédite et qu'on peut regretter parce que l'histoire a habitué les Sénégalais à ce qu'il y ait des passations de service entre un président sortant et son successeur. Cette année, malheureusement, cette pratique républicaine ancrée dans nos us et coutumes ne sera pas respectée parce que l'élection présidentielle n'a pas pu se tenir à bonne date et que la fin du mandat du président de la République ne permettra plus de rester plus qu'il ne faudrait. Donc, c'est effectivement une situation assez surprenante, mais toujours est-il qu'il y a des mécanismes institutionnels qui pourront permettre de suppléer à la vacance du pouvoir.
Et qui pourrait le remplacer alors?
Non, il n'y a pas de conditionnel dans ce cas d'espèce. Il n'y a qu'une seule personne qui peut le remplacer, c'est le président de l'Assemblée nationale.
Le dialogue national de lundi et mardi recommandait quand même que le président reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur.
Oui, le dialogue, c'est un groupe de citoyens d'obédience diverses sortes qui ont réfléchi, ont proposé une solution. Mais le dialogue national ne saurait se substituer à la Constitution et aux règles institutionnelles. Le dialogue n'a pas la légitimité ou l'autorité de pouvoir décider de qui sera président de la République, qui va rester pour prolonger le mandat éventuellement d'un chef de l'État. Rappelez-vous que le Conseil constitutionnel, dans une décision du 5 juin, a clairement précisé que le mandat du président de la République ne saurait être augmenté d'une façon ou d'une autre. Donc, la bonne volonté du dialogue national est une chose, mais la réalité institutionnelle et la légalité juridique ne permettraient pas certainement que Macky reste au-delà de son mandat, c'est-à-dire au-delà de le 2 avril.
Le journaliste Madiam Baldiain, du journal sénégalais Le Quotidien.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le fleuve Niger est décrit comme le véritable pilier de l'économie du Mali, pays dépourvu de côtes maritimes. Toutefois, l'ensablement représente un défi majeur pour la navigation, comme nous allons l'entendre dans le reportage de Tidiani Ouedraogo pour VOA Afrique.
Nous sommes sur les berges du fleuve Niger à Ségou. Des centaines de pirogues sont alignées dans les ports. Ici, la voie fluviale est le seul moyen pour se rendre d'un village à un autre. Nous avons emprunté ces bacs multifonctionnels pour se rendre dans le village de Koula. Après quelques temps d'hésitation, Sita Koulibaly décide de nous parler en cours de voyage.
Le matin, j'achète le charbon et les bois de chauffe pour ensuite revendre à Ségou. J'emprunte le bac tous les jours pour traverser les fleuves.
Communément appelé Badjouliba en mandarin, le Niger est le troisième fleuve en Afrique après les fleuves Nil et Congo. Au Mali, il traverse plusieurs villes et villages.
Je suis un pêcheur sur le fleuve. Selon ce qu'on nous a dit, le fleuve vient de Bamako, Koulikoro jusqu'à Tombouctou.
L'élevage, la pêche, l'irrigation et la navigation sont entre autres activités qui sont menées sur ces cours d'eau. Ces berges servent de jardinage pour les populations riveraines, comme Aïssata Bouaré.
J'emprête les pirogues pour vendre mes légumes dans les foires. Je gagne ma vie dans cette activité depuis des années.
Avec une longueur d'environ 4200 km, le fleuve Niger est une source de vie pour une grande partie de la région du Sahel. Malgré les attaques terroristes visant les bateaux et les pirogues, le trafic fluvial continue. Face à la recrudescence de l'insécurité, des brigades fluviales ont été installées dans plusieurs localités. Tidjani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro.
Parlons maintenant de sport et d'économie. L'Afrique est le berceau d'athlètes de classe mondiale qui jouent un rôle essentiel dans la création de richesses mondiales. Mais l'industrie africaine du sport ne contribue que pour 0,5% au PIB du continent. Forte d'une population jeune d'1,4 milliard d'habitants et d'une augmentation de la consommation et de la pratique du sport, l'Afrique est témoin d'un afflux d'investissements. Yacouba Ouedraogo a reçu dans le studio Willem Biakop, expert en économie du sport et président de l'African Sports and Creative Institute, auteur d'un ouvrage intitulé « L'industrie du sport en Afrique ».
Donc il m'a semblé important de créer un ouvrage dans lequel les gens, les acteurs de l'écosystème vont venir chercher, trouver de l'information. Parce que la première chose qui freine le développement de l'économie du sport en Afrique, c'est la data. On a besoin de comprendre qui consomme le sport, comment il le consomme. Où, quels sont les niveaux d'investissement qui sont réalisés, quels sont les niveaux d'investissement qui sont nécessaires. Quelle économie on peut réaliser lorsque les gens pratiquent le sport au niveau du ministère de la Santé? Vous voyez? Donc c'est plein de questions comme ça qui font que je me suis dit non, il faut absolument rassembler les différentes personnalités qu'on a sur le continent, leur donner la parole, les experts de l'écosystème, mais également les experts de l'économie africaine. Donc c'est comme ça que nous sommes allés voir les différents acteurs, plus de 500 dans l'écosystème, mais également des superstars, comme je les appelle, ou nos grands du continent. Je pense notamment à Makhtar Diop, qui est le patron de la SFI, ou Société Financière Internationale, ou AFC en anglais. Je pense à Tidiane Thiam. Je pense également à Didier Drogba, pour en citer quelques-uns, qui nous ont apporté leur lumière sur les challenges du continent, mais surtout les opportunités.
Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur?
On trouve 458 pages de contenu. C'est 10 chapitres, 8 case studies, donc des études de cas, des success stories complètement africaines.
Exemples de success stories?
Absolument.
De qui, par exemple, dans le livre?
Je pense, par exemple, à la demoiselle qui est sur la couverture. C'est Navalayo Sambo qui a créé sa marque dans le retail, donc sa marque de sport qui s'appelle Enda. Enda Athletic parce qu'elle elle est kenyane, elle voit les grands kenyans courir et à chaque fois qu'ils portent des marques, c'est pas des marques kenyanes. Donc elle a dit, ben voilà, moi je veux créer ma marque et c'est une super success story parce que sa part de marché la plus grande est actuellement aux États-Unis. Donc on a la chance d'avoir différentes personnalités, on parle également d'éducation avec Hicham El Abti, le patron de l'université Mohamed VI Polytechnique au Maroc. Donc différentes personnalités qui apportent leur lumière et viennent avec des propositions innovantes pour vraiment développer l'écosystème du sport en Afrique.
Willem Biakop, expert en économie du sport et président de l'African Sports and Creative Institute. Et voilà, Le Monde aujourd'hui, édition matinale du vendredi 1er mars 2024 prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma. Chers amis fidèles de la VOA, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous ce matin et toute cette semaine. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle journée et un merveilleux week-end. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt.